ma fille. Radio Campus.
Depuis que l'homme possède la technologie, il a réalisé la plupart de ses désirs.
Une expérience simulée à la fois réelle et imaginaire.
On sent la solitude, le froid, la peur, et parfois même au fond, je ressens un peu d'espoir.
De l'espoir.
Radio Campus.
Radio Campus 88.3 FM.
Le moulin à parole.
Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées. Le moulin à parole.
Écoutez-nous sur Radio Campus.
Radio Campus 88.3. Bonjour, bienvenue sur Radio Campus 88.3. Il y a Jérémy, il y a Michel, il y a Océane, il y a Ezekiel, il y a Victor, il y a Bobby et il y a Jimmy et il y a Eliana, Cindy, moi et Daniel. Aujourd'hui, on va interviewer Daniel.
Daniel, est-ce que vous avez des animaux chez vous ?
Oui. Alors, je ne parle pas de tous les animaux que tout le monde a chez soi, tels que les petites araignées ou les mouches, des fois, qui peuvent rentrer par la fenêtre. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que les araignées, je les garde. Et pourquoi je les garde, les araignées ?
Pourquoi ?
Parce que je préfère les avoir dans le plafond de mon appartement...
Que dans la tête.
Que dans le plafond de mon cerveau.
Ça marche, d'accord ? Aussi, d'accord, c'est un jeu de mots, ça y est.
Non, mais c'est vrai. Et ça fait de la compagnie, je sais que c'est de la vie, et voilà. Donc alors, une fois par an, je fais le grand ménage, je leur demande d'aller ailleurs, hein, oui. Avec un petit balai.
Oui.
Mais je ne les chasse pas, voilà, je garde les araignées avec moi. Et sinon, alors, plus sérieusement...
Est-ce que vous avez des poissons ?
J'ai un poisson rouge qui s'appelle Moustache, que j'ai eu en 2016 dans une fête foraine où j'avais gagné, donc c'était à la pêche au canard, un petit poisson rouge. Et normalement, l'espérance de vie d'un poisson rouge est de 2 ans, et Moustache va en avoir, donc c'était 2016, on est en 2023, Moustache va avoir 7 ans. Ce qui est assez long quand même pour la durée de vie d'un poisson rouge. Hein. Mais oui, parce que Jimmy, vous y connaissez.
Je connais le poisson rouge, oui, c'est rare. Mais ça va.
C'est ce qu'on appelle un combattant.
Combattant, ouais, c'est un petit poisson qui vit tout seul dans une petite boîte.
Voilà. Et donc,
il ne peut pas se reproduire, il ne peut pas aller avec d'autres poissons si on se fait manger, tout ça, et voilà.
Est-ce que vous aviez d'autres questions à me poser?
Moi, j'ai une autre question.
Ben, on y va.
Qu'est-ce que vous aimez bien faire dans votre vie ?
Ouh là là ! Beaucoup de choses.
Quoi comme chose ?
J'aime beaucoup lire.
Vous passez beaucoup de temps à la radio aussi ?
À la radio aussi, mais j'aime beaucoup la lecture. Je lis beaucoup.
Quoi comme livre,
Alors, en ce moment, alors pendant longtemps, ça doit faire une dizaine d'années, je me suis beaucoup intéressé à la lecture caribéenne, notamment aux auteurs d'origine martiniquaise, ou guadeloupéenne ou haïtienne.
D'accord.
Et puis là, depuis à peu près 6 mois, je m'intéresse à la poésie, et notamment à la poésie romantique et surréaliste.
Ah bah c'est super ça, c'est super ça.
Vous voulez que je vous récite un poème ?
Oui, pourquoi pas, un exemple.
Je sais pas.
Encore.
Oui.
Oui.
Allez, j'y vais.
Encore
suffoquant sous la peau des ténèbres, tous les matins je dois recomposer un homme avec tout ce mélange de mes jours précédents et le peu qui me reste de mes jours à venir. Me voici tout entier, je vais vers la fenêtre, lumière de ce jour, je viens du fond des temps. Respecte avec douceur mes minutes obscures, épargne encore un peu ce que j'ai de nocturne, d'étoilé en dedans et de prêt à mourir sous le soleil montant qui ne sait que grandir. Jules Supervielle.
C'est vachement joli, c'est super son poème. En plus,
j'adore la poésie, donc je m'étais dit que si j'apprends un poème par mois pendant 10 ans, dans 10 ans j'en connaîtrai 120, et je suis tellement passionné qu'en 6 mois j'en ai déjà appris 24, donc dépassé mes objectifs.
Ah là, c'est génial, ça. C'est comme si vous arrêtez de fumer, c'est pareil,
oui.
C'est génial aussi.
Mais j'aime beaucoup la poésie.
C'est très bien.
Et la poésie, il va en être question d'ailleurs, puisque vous êtes parti en vacances.
Oui.
Et vous êtes allé dans la nature, au bord de la mer.
Oui.
Bobby, vous êtes allé, vous êtes parti où en vacances cet été ?
Oui.
Pose-la. Au
bord de la mer.
Où ça ?
La mer.
Oui, vous pouvez me parler
la
un
plage.
Peu. La plage, d'accord. Alors, plus près du micro, hein, Bobby. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas au bord de la mer ?
Nager.
Vous avez nagé ? Vous savez nager, Bobby ?
Oui.
D'accord.
que j'en ai encore là, chez moi, c'est grave.
Et ça vous a plu?
Ouais, c'est y a des lapins. Si c'était la ferme.
Il y avait quoi comme animaux à la ferme?
Des chèvres. C'est des chèvres.
Et puis, alors, il y en a parmi vous qui sont partis en Espagne.
En Espagne, oui. Avec moi, Jérémy, Ezekiel, Ludovic une infirmière et deux éducateurs. Deux éducateurs.
Bon, Jérémy, vous pouvez un peu me parler de l'Espagne?
On est en Espagne, c'était super. On a gagné une pièce, on a acheté une pièce. Voilà.
Vous avez acheté une pièce?
Oui, une pièce.
Quoi comme pièce?
Un souvenir.
Un souvenir, d'accord. Oui. Et vous avez mangé quoi là-bas?
On a mangé au Big Mac, quoi.
Un Big Mac?
Oui.
D'accord. Et vous étiez dans une maison, vous pouvez me parler un peu de cette maison?
Une maison, ouais.
Une maison magnifique. Avec, je crois que le mur était blanc, et il y avait une vitre en verre tout autour, un store aussi, une grande piscine, sécurisée parce qu'on pouvait la fermer l'hiver, on pouvait nager sous la pluie s'il y avait de l'eau, c'était recouvert, et c'est une sécurité, il y avait un cadenas pour sécuriser les gens pour pas qu'ils tombent dans l'eau qui se noie. Elle avait quand même pas mal de profondeur, c'est rare pour ces piscines-là, elle avait au moins 2 mètres de profondeur, et dans les piscines d'habitude, elles ne sont pas très profondes, mais là, ça avait 2 mètres de profondeur, presque 3 mètres au plus profond, et c'est des piscines très rares.
Ézéchiel, rapprochez-vous du micro. Parlez-moi de l'Espagne. Vous y étiez, vous?
Oui.
Racontez-moi un peu ce que vous avez vécu là-bas.
Alors, Édule, on a logé dans une maison que nous avait offert une dame d'un certain âge. Et c'était inadapté pour elle. Donc, elle logeait les gens qui demandaient de quoi passer quelques jours. Elle les offrait aux gens qui en valaient la peine. Elle ne demandait pas beaucoup pour ça. Mais elle savait que c'était des gens qui étaient passés par là et qui avaient vécu ça en tant que des gens anciens qui logeaient cette maison avec beaucoup de difficultés à concevoir, quoi. Par exemple, il y avait un salon qui était dehors. Ils ne pouvaient pas partager des amuse-gueules ou une boisson quelconque. Et c'était dehors, donc l'apéritif, ils ne pouvaient pas. Mais à l'intérieur, oui, là, il n'y avait pas de souci. Bon, ils avaient la piscine, mais c'était pas vraiment fait pour les anciens, c'était plutôt pour les jeunes. Et il y avait l'infirmière,
Manon.
Deux secondes. Il y avait l'infirmière, Manon, justement. Il y a eu Pierre-Yves, et il y avait moi. Donc on a, si on peut croire et faire le cause à effet, on a réussi à tous les gens qui sont passés par là ont laissé quelque chose, un détail ou que sais-je. Nous, on s'est servi de ça. C'est pas forcément l'habitacle qui nous a intéressés. C'est le fait que la dame avait des complications avec sa demeure et elle savait pas comment faire pour pas s'en débarrasser parce qu'elle avait un garçon avec elle. Mais elle savait qu'il y avait des choses inaudibles, quelque chose qui était surnaturel, si vous préférez.
Comme de la magie.
Cette habitation avait une âme, c'est ça que vous voulez nous dire, Ézéchiel? Cette habitation avait une âme. Et vous alors, qu'est-ce que vous y avez laissé?
Moi, ce que j'y ai laissé, trois fois rien, en fait. J'ai laissé les gens qui étaient avec moi et qui ont laissé, les amuse-gueules qu'on avait, qui ont une âme aussi, parce que figurez-vous que...
Alors, non, mais je voulais dire, est-ce que vous avez passé, par exemple, un moment festif dans cette maison, Est-ce que vous y avez laissé les restes, mais...
spirituellement.
Quelque part, oui, voilà, d'une fête. Est-ce que vous avez passé un moment de fête?
Ah oui, super.
Barbecue. C'est vrai, oui.
Oui, barbecue, et puis on avait l'apéro tous les soirs, tourtelle tous les soirs.
Je suis sûr que Jérémy, il adore le barbecue.
Ouais.
Je sais pas pourquoi.
Ouais.
C'est vrai?
Ouais.
Vous avez mangé quoi dans ce barbecue?
Ah, on a des saucisses, des...
Les merguez.
Les merguez.
Et qui c'est qui s'occupait du barbecue?
C'est Pierre-Yves.
Pierre-Yves, d'accord.
Pierre-Yves.
Et elle s'appelait comment, cette dame?
Ah, c'est bon.
On n'a pas dit non. Mais je... Peut-être que Cindy, elle sait où, comment s'appelait ce... Non, c'est pas la dame, mais je veux dire le lieu où on était.
Et l'espagnol, vous parlez espagnol les uns les unes les autres?
Non.
Non,
je suis le seul à parler espagnol.
Moi.
C'est pour ça que, justement, j'y avais été avec Pierre-Yves et Manu, et j'étais le seul espagnol qui pouvait, par exemple, demander un plat et en espagnol. Et voilà, quoi. D'ailleurs, ils avaient fait ce voyage en villégiature rien que pour moi.
C'est vrai, ça?
Pratiquement, Océane.
D'accord.
Océane n'est pas au courant. En fait, mais même s'il dit...
Voyage, oui, pour...
Voilà, c'était adapté pour moi. C'était un cadeau qu'il m'avait fait. Donc, la frontière m'a toujours envoûté.
Ah, parce que... c'est là, l'esprit, on y vient.
Oui.
D'accord, donc c'est votre âme espagnole qui vous a amené là-bas, en fait. Vous aviez besoin d'aller là-bas, Ézéchiel.
Oui, parce que j'y ai passé beaucoup de fois en voyage, et j'y ai laissé beaucoup des liens, quoi, que j'ai perdu peut-être, c'est certainement ça, mais je les ai vécus, parce qu'il y a la montagne, il y a de la mer, on peut faire du parachute ascensionnel, on peut y faire de la planche à voile.
Faire du surf aussi. Il y a les gros
sables là-bas. Ils respectent personne.
Allez.
Et par exemple, on a fait un voyage en Vendée, au préalable, au début. Et la Vendée, c'était idyllique, paradisiaque et magicienne. Le voyage en Vendée par lui-même. Mais là, on est passé dans une demeure qui, pour la dame qui la proposait, c'était un rien compliqué, la pauvre. Et il y avait que nous. On a fait appel à nous parce que, justement, on est forgé à ça, si vous préférez.
Vous êtes sensible à la mémoire des lieux, à l'histoire des lieux, j'ai l'impression.
J'adore.
Que quand vous allez justement en Espagne, en Vendée, vous ressentez ces choses que l'on ne peut pas forcément toucher, que l'on ne peut pas ni même voir avec les yeux, ni même entendre avec les oreilles, mais que l'on perçoit par l'esprit, par cette conscience humaine, intemporelle d'une histoire. Voilà, et vous parliez par exemple des personnes qui vous ont quitté... physiquement sur cette terre, mais dont la mémoire persiste en votre souvenir.
Tout à fait.
Vous êtes, sens, oui, que vous avez
C'est les mots exacts. Pour moi, c'est universel, si vous préférez.
Et Jimmy, par exemple, vous êtes sensible, vous, à l'histoire?
Moi, l'histoire, l'histoire, c'est vraiment... Oui, j'en parle un petit peu.
L'histoire, non, mais je ne sais pas où est. Allez-y.
Oui, je parle un peu. J'avais vécu 10 ans avec ma copine. C'était super bien passé. Je pense à elle. Je suis toujours en cœur avec elle. Et ça se passe très bien. Maintenant, malheureusement, elle est partie. Maintenant, je pense à autre chose. J'ai eu quelques soucis, mais ça va mieux maintenant. Oui.
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 Oui, c'était bien. Déjà, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé et tout. On a acheté des souvenirs,
On a acheté plein de souvenirs. J'ai acheté un ouvre-bouteille en forme de...
Et Bobby, vous aimeriez aller où dans le futur? On a parlé donc d'Ézéchiel qui a réalisé un rêve, celui de...
Marseille.
À Marseille.
Oui. Moi, j'y ai prochain.
Bonjour Michel, il faut que vous parliez bien près du micro.
Oui, Daniel.
Ça va bien?
Ouais.
Alors vous allez nous parler du Portugal, Michel, parce que vous êtes allé au Portugal cette année.
C'est très très beau le Portugal, ça m'a plu franchement. Et c'est béni. J'avais plein de choses, et tu fais des courses, tout ça, pour manger, tout ça. Et puis, on s'est béni à la plage, c'était bonne l'eau. On s'est béni, ça m'a plu franchement, je suis bien retourné au Portugal.
Vous parlez portugais, Michel ?
Non.
Non, d'accord. Vous êtes allé voir de la famille au Portugal ?
Non.
Non ? Alors, vous y êtes allé avec qui ?
C'était que extérieur.
Parlez-moi des gens, c'était qui ces gens ? Il y avait qui avec vous ?
Je sais pas, la prochaine fois, je mets une photo.
D'accord. Oui, mais alors, en radio, la photo, ça ne nous aide pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y aurait sur ces photos ?
Plein moniteur, tout ça.
D'accord. Vous étiez combien ? Vous étiez nombreux à partir au Portugal ?
Non.
Et c'est pas la première fois que vous allez au Portugal, il me semble. Qu'est-ce que vous aimez au Portugal, Michel ?
De tout.
Ben merci, Michel. On a parlé de l'Espagne, on a parlé de Marseille.
Merci, Daniel.
Mais je vous en prie. On a parlé du Portugal. Et maintenant, vous allez interviewer Eliana.
Elle aime bien les animaux.
Oui, j'aime beaucoup les animaux. D'ailleurs, j'ai un chien, un staff familial qui est un pur.
Ouais.
Et c'est tout.
T'es pas de chien, rien.
Mais si, justement, c'est un chien.
Qu'est-ce que vous faites dans votre vie ?
Alors, pour le moment, je suis en stage avec vous dans le foyer d'accueil médicalisé à Nice. Ouais. Je suis en découverte du métier aide-soignante avec ma tutrice Océane, qui est super. Et j'aimerais, si possible, justement, devenir aide-soignante et venir en aide aux gens.
Ouais. Merci.
Vous avez fait quoi comme métier ? Vous êtes infirmière comme...
Je veux faire aide-soignante.
C'est quoi aide-soignante ? Ça veut dire aide-soignante, en deux mots, par exemple.
En deux mots ?
Ou plusieurs mots,
Oui, façon de parler, rapidement.
Alors, de ce que j'ai vu pour le moment... Alors, pour le moment, de ce que j'ai vu, pour moi, aide-soignante, c'est accompagner les personnes.
Des personnes en difficulté, par exemple ?
Oui, par exemple, des personnes en difficulté.
Des trous pour prendre sa douche, des choses comme ça.
Oui, après ça fait partie du métier.
Du métier, ouais, c'est ça. Oui. Et vous êtes passé à l'école, comment ça s'est passé à l'école?
Non, justement, là, c'est mon premier stage. D'accord. Et par la suite, si le métier me plaît, je suis censée justement m'inscrire à l'IFPM pour pouvoir passer un concours. D'accord. Et ma formation.
D'accord. Vous êtes en stage de découverte.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire d'être en stage de découverte pour trouver un métier ?
Alors, c'est justement pour découvrir le métier et voir si ça peut nous convenir ou pas.
Est-ce que c'est rémunéré ou pas ?
Alors, techniquement, non.
C'est pour ça que je pose une question.
Non, mais par derrière, en fait, je reçois des sous de Pôle emploi.
Tout simplement. Ouais, sinon, j'ai une autre question à poser. Vous avez des animaux, ça c'est le plat préféré, par exemple.
Alors, j'en ai pas, j'aime tout. J'aime tout.
Le couscous, je pense que vous avez plus.
C'est pas mon pays.
Non. Mais vous êtes d'où ? Vous habitez où ? Vous venez d'où ?
Moi, je suis centrafricaine portugaise. Ça se voit pas trop.
D'accord.
Mais voilà, mais le couscous, c'est pas un de mes plats préférés.
D'accord. Est-ce que vous avez des enfants ou des choses comme ça ? Vous n'êtes pas obligé d'en parler ?
Non, j'ai pas d'enfants.
D'accord, oui, c'est tout simplement.
On va poursuivre avec l'interview de Victor.
Bonjour déjà.
Alors, qu'est-ce que vous faites ?
En fait, au sein de Radio Campus, c'est une association, donc on a un conseil d'administration. Et il y a différentes personnes au sein de ce conseil d'administration. Il y a Alexia qui est la vice-présidente des relations humaines. On a Benjamin qui est le président. On a Hélène qui est la secrétaire. Et il y a moi qui suis... Hélène qui est la trésorière, pardon, et moi qui suis secrétaire.
Moi, j'avais une question. Votre métier de la radio, ça vous plaît ? C'est votre passion ?
La radio, ça me plaît beaucoup. Ouais, je dirais que c'est une passion, effectivement. J'aime beaucoup participer à des émissions comme là, actuellement. Sinon, j'anime une émission le mardi soir avec Hassan Kerim qui s'appelle À bâton rompu.
Je connais pas cette émission. Ça parle de quoi, à peu près ?
C'est une émission de journalisme local et international.
D'accord, pour plusieurs infos différentes, les cultures et tout ça. D'accord.
C'est ça.
Ok, d'accord. Sinon, est-ce que vous avez des animaux ?
Non, j'ai pas d'animaux. Alors j'ai eu un chien et un chat quand j'étais plus jeune, mais depuis maintenant 7-8 ans, je n'ai plus d'animaux.
Allez, on va terminer avec l'émission traditionnelle. Pause café, quoi de neuf ? C'est parti. Allez, oui. Alors quoi de neuf ? Quoi de neuf, Michel ?
Ben vas-y, Daniel.
Quoi de neuf, Michel ?
Que du vieux.
Que du vieux.
Que du vieux, ouais.
Quoi de neuf, Jérémy ? Quoi de neuf, Jérémy ?
Ma famille, je suis invité en famille. Je suis invité à ma soeur qui est très malade. Et alors, à ma soeur qui est malade. Et un gros bisou et... Bonne fête. Ça va être bientôt la Saint-Jérémy.
D'accord. Quoi de neuf, Ézéchiel ?
Tout à l'heure, j'ai fait une référence entre Irun à la frontière et c'était Biarritz. Et non, on s'est complètement planté parce que moi, j'étais dans l'expectative et je me disais, mais non, c'était pas Hendaye.
Hendaye ?
Non. Voilà, c'est ça.
Hendaye.
Ce que je voulais dire, c'est que Biarritz. C'est pas Biarritz.
Voilà.
C'est Hendaye. D'un côté, c'est Irun et l'autre côté, c'est Hendaye.
Voilà.
C'est ça. Comment j'aimerais bien savoir comment t'as fait pour deviner.
Mais c'est vous qui l'avez dit.
C'est vrai.
on avait semé ce trouble tout à l'heure, il y a près d'une heure, voilà. Et notre cerveau, pendant ce temps-là, on continue, réfléchit pour nous.
Ce qui est extraordinaire avec vous, c'est qu'on n'a pas besoin de boire. C'est comme ça.
Et heureusement d'ailleurs, parce qu'imaginez ce que ça donnerait. Ça serait catastrophique.
C'est de la folie totale.
Déjà, on est déjà dans la folie. Est-ce qu'on a besoin d'en rajouter ? Ça nous suffit.
Si, c'est de la folie légère. Ça me suffit. On peut en boire et en abuser même si il faut.
Et on la respire même d'ailleurs. Quoi de neuf, Marie ? Quoi de neuf, Marie ?
Bah, je fais beaucoup d'activités en ce moment. Le journal, c'est un groupe de parole avec Cindy, le festival, le tennis, l'athlétisme, voilà, la danse.
Alors, c'est quoi ce groupe de parole avec Cindy ?
Hein ?
C'est quoi ce groupe de parole dont vous me parlez avec Cindy ? Il y en a qui veulent en parler ?
C'est ce qu'on fait tous les jeudis.
Bah, parlez-moi.
C'est ce qu'on fait tous les jeudis avec Cindy. Pas vrai, Cindy ?
Oui, mais expliquez-moi.
Oui, c'est ce qu'on fait tous les jeudis après-midi. Tous les jeudis matin. Oui, mais c'est tous les jeudis matin.
Explique ce que c'est. Expliquez ce que vous
c'est quoi le journal ?
Non,
le groupe de parole. Vous faites quoi dans ce groupe de parole ?
Bah, on va dans la salle de réunion, on discute, les actualités. Voilà.
Ah bah tiens.
Eh bien, merci à tous. Je vous laisse conclure, Marie. Vous nous dites au revoir. Vous faites les remerciements.
Au revoir à tous.
Au revoir, Daniel.
Au revoir, Daniel.
Bonsoir, ma famille. Bonsoir.
Merci,
Daniel.
Au revoir, Daniel. Écoutez-nous sur Radio Campus.
Radio Campus 88.3.
Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées. Le moulin à parole.
It seems like we are. We're. Sans savoir où cacher. end of the world is coming. I saw a recent commercial that said, unfortunately, the world is just going to drag on and on and on. Just going to drag on and on and on.
arrêté la rap, j'ai arrêté le massacre. J'ai mis enfin une fin aux fous rires, au sarcasme. À tous ceux qui pensaient que je faisais de la parodie, j'étais seulement en phase avec moi-même, ma vie, mes envies, ma crainte.
J'ai arrêté le rap, j'ai arrêté le massacre. J'ai mis enfin une fin aux fous rires, au sarcasme. À tous ceux qui pensaient que c'était un délire, j'étais seulement en phase avec moi-même, mais complètement incompris.
Quand tout ton entourage te dit depuis des années que t'es fait pour slammer, c'est que c'est le moment d'arrêter. Je me sens plus léger, je suis libéré d'un poids, comme un athée qui vient de retrouver la foi. Si j'avais arrêté il y a 10 ans, ça aurait été mieux. Il aura fallu une pandémie mondiale pour m'ouvrir les yeux. Septembre 1997, octobre 2020, ça fait 23 ans. J'aurais pas perdu mon temps, mais j'aurais perdu beaucoup d'argent. J'ai investi des milliers de francs et j'en ai gagné quelques centaines. Continuer, ce serait vraiment pas la peine. J'ai jamais adhéré, ni au code, ni à la mentalité. J'ai été un puriste, mais pas longtemps. Je suis pas assez nostalgique de ma jeunesse pour penser que c'était mieux avant. Je suis pas assez jeune pour être nostalgique d'une époque que j'ai pas connue de mon vivant. C'est le moment d'arrêter, mon gars. Quand ton DJ rappe mieux que toi et que t'as un meilleur sens du rythme avec tes jambes qu'avec ta voix, quand l'ingé son te dit, ça s'entend que t'es pas rappeur.
J'ai arrêté le massacre, j'ai mis enfin une fin au fou rire, au sarcasme. À tous ceux qui pensaient que je faisais de la parodie, j'étais seulement en phase avec moi-même, ma vie, mes envies, ma graine.
J'ai arrêté le rap, j'ai arrêté le massacre, j'ai mis enfin une fin au fou rire, au sarcasme. À tous ceux qui pensaient que c'était un délire, j'étais seulement en phase avec moi-même et complètement incompris.
Je me suis toujours senti coincé dans les contraintes rythmiques. J'ai jamais rappé de façon carrée, c'est pas mon kiff géométrique. Y'a que quand les gens s'en débarrassaient que mes CD se sont retrouvés dans les bacs. J'ai même rappé dans un groupe reggae qui s'appelait Wata Brak. Grâce à Rousse, depuis 2009, j'ai arrêté de rapper tout seul. J'ai tellement un esprit de contradiction que j'ai même rappé sur du yodel. Et deux humoristes connus ont fait le buzz à la télé et sur les réseaux avec le concept d'un de mes clips et de mes morceaux. J'ai rappé pour la première fois en public le 26 août 2001 et le pire, c'est que c'était tellement nul que 16 jours plus tard, les tours jumelles se sont écrasées de rire. À mon premier concours de freestyle, un des concurrents a commencé à rapper en anglais avec beaucoup de talent. Un DMC lui a dit qu'ici on est en Suisse donc on rappe en français. Après lui avoir arraché son microphone, il devait pas être au courant qu'en Suisse, on est une minorité francophone. Les rappeurs sont comme le fact-checking des infos. Ils décident de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Des gars qui te regardent de travers alors que tu sais même pas pourquoi. En fait si tu sais, c'est parce que ton album il le kiffe pas. Et ils te saluent enfin mais sans respect quand tu les recroises 10 ans après.
J'ai arrêté le rap, j'ai arrêté le massacre. J'ai mis enfin une fin au fou rire, au sarcasme. À tous ceux qui pensaient que je faisais de la parodie, j'étais seulement en phase avec moi-même, ma vie, mes envies, ma crainte.
J'ai arrêté le rap, j'ai arrêté le massacre. J'ai mis enfin une fin au fou rire, au sarcasme. À tous ceux qui pensaient que c'était un délire, j'étais seulement en phase avec moi-même et complètement incompris.
À la jalousie des rappeurs, je préfère la bienveillance des slameurs. J'ai fait du rap et je me suis fait plein d'ennemis. J'ai fait du slam et je me suis fait une nouvelle famille. Je chantais faux, alors je me suis mis à rapper. Je m'épanouissais pas dans le rap, alors je me suis mis à slammer. Grâce au slam, j'ai énormément voyagé. Grâce au rap, je me suis produit à Lausanne, Vevey, Yverdon, La Sarra, Sainte-Croix et dans mon quartier. Avec l'enregistrement d'un seul slam que j'ai pas écrit, j'ai gagné 10 fois plus qu'avec tous les raps que j'ai enregistrés dans ma vie. Je continuerai à faire de la musique autrement. Slammer, c'est un petit peu comme rapper lentement. Pour paraphraser les inconnus dans leur sketch sur les chasseurs, je préfère être un bon slammeur qu'un mauvais rappeur. Quand j'ai commencé à écrire des vers, mes rappeurs préférés, c'était Ayam et Baudelaire. Quand j'avais 16 ans, le rap m'a sauvé la vie. Mais je dois faire des choix maintenant que je suis père de famille. Comme Obama et Black Mamba, je fais un mic drop. C'est fini, game over, j'arrête le rap. Le rap.
Thank you.
Thank you.